Congédié par Marie-Madeleine, Casanova se retrouve sur la lagune, à Venise, au milieu d'une tempête. Une tempête sur la lagune, Ornella, est-ce que vous avez déjà vu ça à Venise?
Certainement pas. Il ne peut avoir lieu que dans la Venise de Catompate que Fellini a reconstituée à Cinecittà. Vous savez qu'il avait raconté qu'il avait été obligé de construire Venise parce que dans la vraie Venise, il n'y avait pas assez d'eau.
Oui, puis on raconte aussi qu'à Cinecittà, on l'a déjà dit, je crois, Fellini a fait monter 72 décors différents.
90.
Et il y a quelqu'un qui a été le témoin, justement, du tournage d'une séquence à Cinecittà. Quelqu'un que nous allons retrouver tout à l'heure dans ce film, c'est le dessinateur français Roland Topor.
Ça, c'est l'impression d'une machine. Enfin, c'est une industrie, oui. J'ai visité l'usine.
Oui, Cinecittà, comme ça, c'était comme une grande usine, c'est ça?
Oui, ça fait usine. Enfin, disons manufacture, plutôt. Les décors et tout ça, on disait, oh là là. Et alors, les gens qui faisaient, très gentils, l'assistant qui faisait visiter, ils disaient, il y a 400 personnes qui travaillent pour les bijoux, il y a 300 personnes qui travaillent pour les vêtements, il y a 250 personnes, il y a... Enfin, c'était chiffres, on était très, très intéressés. C'était un peu un petit Osaka.
Bon, alors Cinecittà, c'est la valse des milliards. Alors, je suppose que Fellini, pour représenter cette tempête sur la lagune, a dû dépenser une somme considérable.
Oh non, il y a eu seulement un feuille de plastique pour représenter la lagune. Et pour la tempête, 6 machinistes qui secouaient cette feuille et quelques projecteurs. Vous savez, une fois qu'il est bien assuré d'avoir mis en marche une machine immense, Fellini, comme les enfants, s'amuse à construire des châteaux avec des boîtes d'allumettes.
Donc, sur la lagune en tempête de plastique, la gondole de Casanova est harponnée par une sorte d'impitoyable tribunal flottant. C'est un peu la statue du commandeur face à Don Juan. Casanova va être jugé, condamné, et nous allons entendre pour la première fois la voix de Casanova dans la version française. C'est celle de Michel Piccoli.
Giacomo Casanova, tu t'es rendu coupable d'exercice de magie noire, de posséder des livres damnés mis à l'index, d'être l'auteur d'écrits hérétiques et de mépriser la religion. Moi, Messer Grande Prévôt, au nom des inquisiteurs de Venise, je te déclare en état d'arrestation et demande que tu sois sur le champ mis au plomb.
Je respecte le jugement éclairé du tribunal, Messer Grande. Mais je suis obligé de vous répéter que je me proclame totalement innocent.
Casanova se retrouve en prison, il est enfermé. Et c'est un cachot si petit qu'il a dû se baisser pour y entrer. D'ailleurs, on le verra souvent dans le film évoluer dans des pièces minuscules. Le sens caché, le sens profond de cette prison de Venise, de toutes ces pièces minuscules, Fellini nous en donne la clé.
En
général, les décors sont très petits. Ou très vastes, mais alors peu définis. Des simples espaces colorés. C'est un décor qui ne veut pas se rapporter avec précision, avec exactitude. À des perspectives, à des architectures, à des façades qui correspondent à une réalité historique. Je l'ai dit encore une fois, c'est un décor de type psychologique, conçu chaque fois en fonction du personnage. Puisque les situations se répètent toujours, les lieux ont l'immensité du vide, ou alors sont étouffants, très étroits, avec des plafonds si bas qu'ils vous angoissent, de toutes petites cellules qui amènent toujours Casanova à sa condition de fœtus, de quelqu'un qui est enfermé dans une matrice, qui est incapable de sortir. Il leur propose toujours les cachots des piombi, les prisons de Venise. Casanova était toujours un prisonnier. Il n'est jamais né au point de vue psychologique, s'entend. Donc il donne toujours ce sentiment d'oppression, d'angoisse de quelqu'un qui n'a jamais vu le jour dans un espace réel, qui n'a jamais pris vraiment contact avec la réalité.
Et Maillorais, le psychanalyste, renforce encore l'argumentation de Fellini. Maillorais essaye de nous convaincre, il fouille la première enfance de Casanova, il analyse un de ses rêves. À vous, docteur Freud.
Infatti, le memorie di Casanova si aprono con un sogno.
Le memorie di Casanova s'ouvrent avec un rêve. Ou pour mieux dire, le premier rêve qui apparaît dans les mémoires de Casanova, c'est un souvenir d'enfance. Enfant, il est enfermé dans un coffre. Des femmes étranges sont autour de lui, sa mère, sa tante, je ne me souviens plus très bien, un bohémien aussi, je crois. Et lui, dans son coffre, a l'impression d'étouffer. Il se sent prisonnier. Un sentiment d'oppression. Et ses rêves se mêlent par la suite à d'autres souvenirs, au point qu'on ne sait plus à la fin s'il a vraiment été enfermé dans ses coffres ou bien si ce n'était qu'un rêve. En tout cas, nous avons là une image très précise de ce qu'était Casanova. C'est un homme enfermé dans un coffre, dans une mer, dans une matrice. Il regardait le monde depuis sa prison et s'efforçait de s'en emparer, mais n'y arrivait jamais. Oh, cet emprisonnement, cette immersion continuelle de Casanova est montrée soit par la cellule de Piombi où il est effectivement enfermé, soit pour son rêve souvenir, soit par la représentation de Venise, cette ville humide, placentaire, une ville mère, où l'on baigne en permanence dans une eau stagnante, une sorte de liquide amniotique, où, comme dans les ventres de la mer, au lieu de bouger, l'on flotte, éloigné de toute vie active.
Et Casanova, enfermé dans sa prison, dans la position d'un fœtus, va tenter de s'en évader par le rêve. Souvenir. Car ce chant si tendre, si enfantin, que nous entendrons d'ailleurs plusieurs fois au cours du film, c'est en quelque sorte le chant de la tendresse pour la mère, pour la femme inaccessible. Dans sa prison, Casanova se souvient d'abord d'une maison où il pénètre sous l'œil, disons un peu rieur, rieur sous cape, ou plutôt rieur sous nappe d'une ronde de brodeuses. Et cette nappe immense et blanche et ronde et immaculée envahit l'écran. Fellini dessine très souvent des cercles dans ses films.
Oui, souvent les films de Fellini se terminent par une ronde de personnages autour d'une piste réelle ou imaginaire. Rappelez-vous du final des Clowns ou de celui des 8 et demi. Et dans Casanova, on va voir des cercles ou encore des rondes ou des ronds presque dans toutes les séquences. C'est une façon pour Fellini de souligner cette impression qu'il veut donner de la vie de Casanova, une vie sans but, une vie qui recommence toujours, une vie comme il nous l'a dit, qui n'a ni début ni fin.
On dirait vraiment un dindon.
Tu penses que c'est du vrai?
Quoi?
C'est soie, c'est ruban, c'est satin.
Chut. Il est de ses nez.
Ce sont elles, ces brodeuses. Et dans cette maison, à la fois atelier de broderie et maison de rendez-vous, Casanova, justement, a rendez-vous avec une grande dame qui arrive, après s'être fait annoncer, entourée de ses servantes. Elle est masquée, elle est voilée. Alors les brodeuses rient sous la nappe, où leur maîtresse leur a imposé de se cacher pour ne pas embarrasser la visiteuse. C'est Madame Barberina, c'est son nom. Et nous la retrouvons dans une petite pièce de cette maison, en train de déjeuner en compagnie de Casanova. Et dans ces fameuses fiches, Fellini a défini ainsi Barberina. Barberina, une poupée de caoutchouc de 18 ans, de grande taille, dodue, enfantine, sotte, gourmande, maternelle, blonde, une montagne de crème fouettée.
Oui, il dit qu'il a 18 ans, mais dans les films, il n'a plus du tout cet âge-là, parce que vous allez entendre la voix d'une femme d'un certain âge, ou
oui,
pour
oui,
ne pas
oui.
dire un âge certain.
Non, il faut... Patrice Chéreau, qui a réalisé la version française du film, a fait doubler c'est Barberina par Denise Jans. Alors,
ah bon,
c'est tout vous dire. Alors, nous entendons maintenant cette scène du déjeuner où Barberina, disons, mange avec componction, avec délicatesse, un œuf dur. Elle confie à Casanova ce qui la tourmente.
Elle a recommencé à faire le fou, tu sais.
Encore? Moi, j'ai du mal à le croire.
Mais si, je t'assure que si. Pire, pire que jamais. Il se comporte avec une insolence et vraiment effronté.
Oh, mamie, c'est un vrai martyr. Ne penses-tu pas qu'il faille sévir, qu'il nous faille corriger ce désobéissant, ce vilain rebelle?
Que faire? Mais que faire de plus, selon toi? Pourtant, j'essaie de le cacher. Je ne peux le faire que voir à personne, mais hélas, impossible. Vraiment, c'est un impudent, un effronté, un filou. Il s'expose, il n'a pas la moindre pudeur. Où que j'aille, il fait tout pour se faire remarquer. Oh, tu sais, je vis dans la terreur qu'un jour ou l'autre, il aille se mettre en tête de discuter. Qu'il se manifeste, qu'il me rende encore plus ridicule.
Oh, certes, il est à but de sa personne. On a l'impression qu'il est exalté, qu'il s'enfle. Chaque jour encore plus, qu'il gonfle, n'est-il pas vrai?
Oh que si! Il fait un scandale à l'église, c'est épouvantable! Mais dès qu'il apparaît, les pauvres fidèles en oublient de prier, tu n'as pas idée de ce qu'il fait pour attirer tous les regards. C'est un instrument de sacrilège, tu comprends? Il détourne de la pensée de Dieu, interrompt le dialogue avec Dieu et emplit les yeux des fidèles de ses grosses joues grasses, indécents!
En ce cas, ça ne peut plus durer. Il faut absolument le sortir.
Ah oui, il faut le fouetter.
Découvre-le.
Si longtemps que j'aspire à l'entendre crier, fouette-moi, mortifie mes chairs. Fouette, fais-le pleurer, c'est impudique. Vas-y, fouette.
Alors quel est donc ce vilain petit effronté, ce filou dont Barberina se plaint et que Casanova va maintenant punir par le fouet, enfin... Non, je n'oserais même pas vous le dire à vous, Ornella. Je laisserai ce soin à Roland Topor, cet affreux garnement, ce méchant garçon qui a fait cette remarque, qui nous paraît très éclairante en la circonstance, quand il s'est transformé en voyeur, qu'il est entré dans le bureau de Fellini subrepticement et qu'il a jeté un coup d'œil sur ses dossiers.
Je trouvais assez drôle de voir dans les rayonnages du bureau de Fellini, tous les dossiers d'acteurs avec des mentions comme grand cul, petit cul, grosse tête, petite tête, monstre, intéressant. Je veux dire, c'est pas mal. C'est ce que je disais, c'est vraiment le répertoire des possibilités. Et moi, je suis vraiment un petit dossier là-dedans. Un petit con.
Monstre.
Dans cette étrange maison, pension de famille, maison de rendez-vous, il a pris pension pour quelques jours. L'œil de Casanova est aussi attiré par une jeune fille exsangue. Anna Maria s'affiche dans les dossiers de Fellini, la voici. Elle est pâle, mince, visage de cire, elle fait penser à une petite morte, fragile, les yeux cernés, sourire d'enfant malade, qui lui découvre les gencives. Cette image, nous l'avons déjà rencontrée quelque part dans les films Fellini.
Oui, elle nous fait penser un peu à cette statuette de scie. Vous savez, les petits hermaphrodites du Satyricon.
Et oui, et Anna Maria ne cesse de s'évanouir. On appelle d'urgence à tout moment, du jour et de la nuit, un docteur, le docteur Righelini, qui fait penser à une sorte de médecin de Molière, un Diafoirus, et il n'a qu'une méthode pour traiter cette petite, c'est la saignée. Alors, l'œil de Casanova s'allume devant cet enfant lunaire qu'il faut sans cesse ranimer. Une nuit, bien entendu, il se charge de la ranimer lui-même. Il applique sa propre méthode, celle qui a fait sa célébrité, et il rend à Anna Maria les couleurs de la vie. Et c'est en se berçant de cette image d'une Anna Maria, enfin comblée, guérie, se promenant heureuse sous la lune sur les canaux de Venise, que Casanova s'évade maintenant, réellement, pour de bon, de son affreuse prison des Piombi. Il passe tout simplement par le toit. Il tient son oiseau à la main et il rampe pitoyable sur la couverture du toit comme un rat. Mais pour Casanova l'autre, le vrai, cette évasion, c'était comme rocambole. C'est là toute la différence.
Mon évasion des plombs fut un chef-d'œuvre d'intelligence, de précision mathématique, d'intuition, de courage, toute qualité dont m'avait doté la fortune.
Adieu Venise, maintenant Casanova est à Paris. Il dîne chez la marquise d'Urfé. Casanova est lancé dans le monde. Il s'est lancé dans sa course folle et insensée à travers l'Europe. Là, c'est le kaléidoscope tel que l'a défini Fellini. C'est l'éblouissement, la débauche de couleurs. Ici, le Fellini visionnaire peut donner libre cours à son génie plastique recréé. Plastiquement son univers avec la complicité de son décorateur, de son costumier, de son maquilleur. Et je crois que personne ne peut rester insensible à la beauté, disent certains, à la laideur, disent les autres, mais en tout cas à l'explosion prodigieuse des formes et des couleurs, à cette recréation totale des visages, des perruques, des yeux, des bouches. Fellini a même poussé le souci du détail jusqu'à faire peindre dans le salon de la marquise d'Urfé, derrière les personnages eux-mêmes, un tableau qui représente le visage des acteurs avec leur maquillage. Et c'est le maquilleur Rino Carboni qui nous parle maintenant au nom de toute l'équipe de Fellini.
Je crois que le Casanova, il va passer dans l'histoire de la mode comme le premier film où on voit les violettes, des couleurs mauves. Par exemple, j'ai fait presque 8 couleurs de violettes, des violettes plus claires jusqu'au français pour les bouches. Presque toutes les bouches sont viola, violette. De clair, cyclamine, jusqu'à la viola très, très, très foncée. Et toutes les bouches du film, et j'espère que le public, quand on verra le film, on va les comprendre, on va les voir, qui sont de 2 ou 3 couleurs chacun. C'est-à-dire, dans la moitié de la bouche, il y a toujours une couleur plus rouge, plus sexuelle. L'extérieur des côtés de la bouche sont très foncés et on donne à la bouche une expression ou à rire ou triste.
Et oui, bien entendu, Casanova a amené avec lui son oiseau magique à Paris, il ne pouvait pas faire autrement. Et là, avec délice, il se mêle au tout Paris du XVIIIe siècle, à la vie des salons littéraires où l'on parle philosophie, lumière, magie, occultisme. Dans un extravagant dîner de tête, Casanova a la sensation vertigineuse de s'accomplir. Il est en représentation, il brille. Et chez la marquise d'Urfé, alors il se complaît à discuter avec des convives tels que le comte de Saint-Germain, un ecclésiastique spirit, une théologienne insensée de 12 ans, un nain sorti d'un tableau de Goya. Voici quelques images sonores de ce fameux dîner de tête où l'on parle, où l'on déparle, on transforme le monde, pour un peu on transmuterait la matière.
Je suis en contact avec la reine de Saba.
Non, quoi ? Comme elle est gentille. Elle est de retour parmi nous.
Quel est donc l'eau qui ne jaillit pas du rocher, qui ne tombe pas du ciel, qui ne naît pas de la terre ? La réponse est la sueur du cheval.
Ce sont là les énigmes de Salomon et telle est sa réponse à la reine. Nous avons reçu le message. Merci, mon père.
Mais si vous avez foi réellement en ce contact extra-humain, pourquoi ne vous transférez-vous pas dans l'âme de la reine de Saba ?
La reine de Saba ne carence d'âme comme toutes les femmes.
Oh, s'il vous plaît, monsieur. Le concile de Trente a mis fin il y a longtemps à ces sornettes.
Les femmes ne possèdent enfin que 2 qualités d'âme. Les hommes, 3. Aux femmes, hélas, il en manque une capitale, l'immortalité de l'âme.
Vraie femme, une seule âme est plus que suffisante pour pouvoir se fondre avec celle d'un homme en parfaite harmonie lors de la fusion de leurs 2 corps.
Pourquoi Casanova est-il devenu le roi des banquets ? Fellini répond avec évidence à cette question.
Come mai sono i banchetti?
Pourquoi on voit tant de banquets dans les films? Mais parce que quand on a lu les mémoires, on garde les souvenirs d'un Casanova, toujours à table, ou alors au théâtre, ou dans un salon, ou dans une salle de jeu. Il n'y a pas une raison particulière. Les banquets représentent une dimension sociale bien précise. Casanova est quelqu'un qui tenait à être bien reçu, qui aimait la compagnie du beau monde, qui aimait de se voir entouré de belles dames, de chevaliers, de gens importants. Le fait de participer à un banquet, à un dîner de tête, représente bien le genre de vie mondaine à laquelle il aspirait plus que tout au monde. Ce sont les lieux où on peut rencontrer du beau monde, des gens importants. Casanova n'avait pas de doute à ses propos. Il ne s'occupait que des gens qui avaient le pouvoir. Tout le reste, c'était de la racaille. Les peuples, pour lui, c'était quelque chose de vulgaire, de déplaisant, de bestial. Il était persuadé que l'ignorance du peuple fait son bonheur, que la misère aussi. et qu'il était bon, par ailleurs, que les privilèges de la liberté ne soient réservés qu'à quelques-uns, parmi lesquels il voulait pouvoir se compter, ou tout au moins pouvoir compter ses amis. Enfin, sa vision, apparemment, Casanova peut paraître révolté, mais en réalité, c'est quelqu'un de bien intégré, un vrai enfant de la contre-réforme, bien inséré dans le système établi, avec un grand respect pour l'autorité, un grand respect pour l'ordre, si bien qu'il a fini pour être indicateur du tribunal vénitien, de la police.
Là, c'est très important ce que vient de dire Fellini. Il met Casanova au pilori comme conformiste. Casanova est un homme de la contre-réforme. C'est le contraire d'un révolutionnaire, c'est un homme rétrograde. Alors, heureusement ou malheureusement pour lui, Casanova a toujours son oiseau magique à portée de la main, et aucune femme, on le sait, ne peut rester insensible au chant de cet oiseau. Même une femme de 70 ans, comme la marquise d'Urfé, dont Fellini nous précise dans sa fiche qu'elle a le regard étonné, les seins tremblants, elle est céleste et diabolique, elle est fermée à la réalité, elle est très douce, très soumise, confiante, elle croit à tout ce qu'on lui dit, elle a la larme facile, c'est une lesbienne refoulée, elle parle avec les esprits. Et la marquise d'Urfé a le visage de Cecily Brown. Madame, pouvez-vous nous définir le personnage que vous jouez dans Casanova?
French Marquise, Marquise d'Urfé.
Une marquise française, la marquise d'Urfé.
Interested in the occult.
Qui s'intéresse, je crois, à l'occultisme, à la magie.
Believes in it sincerely.
C'est une femme qui a environ 70 ans. Elle s'imagine qu'elle désire avoir un enfant avec Casanova parce qu'elle croit qu'elle va renaître dans cet enfant et renaître éternellement sous la forme d'un homme. Elle le croit vraiment, pour toujours. C'est une folle. Elle voit Casanova et leurs signes astrologiques correspondent tout à fait à ce qui est requis pour cette opération magique qui va consister à avoir cet enfant. Elle croit cela de tout son cœur, de toute son âme. Elle est touchante, folle, pathétique, parfois amusante, mais très gentille, très douce, prête à tout. Elle donne à Casanova une forte somme d'argent pour cette affaire afin de pouvoir avoir un enfant à son âge. La marquise est folle et Casanova est devenu fou, fou de joie. Il vient de quitter le banquet. La proposition de la marquise lui a ouvert des possibilités inespérées. Son carrosse s'ébranle sous l'orage et lui-même s'ébranle de joie.
Tu es à Paris! L'illustre ville du cardinal Mazarin! De Racine, Voltaire! Paris! Mais un admirateur m'a le droit de chanter la gloire!
Attention! Retire-toi de là, espèce d'imbécile!
Malheur ! L'orage a craqué, la voiture a versé. Et depuis son carrosse renversé, la tête à l'envers, Casanova découvre avec horreur un passant que ses chevaux ont failli écraser. Et ce passant, c'est un reflet déformé de lui-même, c'est son propre frère, bien plus malchanceux que lui. Le frère de Casanova est un petit curé minable qu'il a perdu de vue depuis je ne sais combien de temps. Mais À côté de ce curé, il découvre surtout la jeune maîtresse de son frère, Marcolina, une fille du peuple, avec un œil au beurre noir qui témoigne, disons, du caractère orageux de ses rapports avec le petit curé. Alors Casanova, dans son ivresse de bonheur, souffle la maîtresse de son frère, congédie son frère, comble Marcolina, et grâce à elle, il va pouvoir organiser un coup prodigieux. Grâce à la complicité de Marcolina, il va pouvoir répondre au désir de la marquise d'Urfé.
Oh, Selene, Anubis, Osiris. Oh, transcendons le plaisir de la chair. Dépensons-nous afin de fondre nos âmes en une union profonde et parfaite.
Parfum de Vénus.
L'amour est source et racine de vie. L'amour engendre pulsions et passions bonnes et mauvaises. L'amour engendre la flamme éternelle, qu'elle soit divine ou humaine. L'amour engendre les dieux et les démons. Prends-la dans tes bras.
Venez, madame.
Approchez-vous. Parfum de Vénus.
Ainsi va pouvoir s'accomplir entre Casanova et la marquise d'Urfé le cérémonial prévu. Et cela grâce à la présence, disons, toute charnelle et impudique de Marcolina. Casanova, lui, porte sur sa tête, il est couronné d'une sorte de diadème de chandelle. C'est étrange.
Oh, l'heure de Vénus a sonné. Je suis à toi. Que le grand œuvre s'accomplisse.
Attendez. Je dois auparavant compléter mes calculs. Je crois bien que nous sommes encore dans l'heure de Mars. Marcolina. Marcolina. Viens ici. Jamais homme ne fut précipité dans un gouffre aussi profond, ni ne se roua avec une telle violence. Mais à celui qui est perfection, commencez cet instant diaphane.
Bouge-le.
Hors duquel l'essence de sa virilité atteint enfin la racine du sexe opposé. Ça y est.
Et alors, dans cette scène de l'amour, du rituel érotique, avec vous, Casanova, n'est-ce pas, porte un diadème de bougies sur la tête. C'est un peu de la sorcellerie. Et cette couronne avec ces bougies que porte Casanova, ça fait partie de ce rituel. Je ne sais pas pourquoi. Je sais que Donald Sutherland n'était pas du tout rassuré avec ça sur la tête quand nous étions au lit ensemble. Il avait toujours cette couronne de bougies, alors c'était à pile ou face à qui prendrait feu le premier. Dans la version originale, la marquise d'Urfé, c'est Cissé Libon, et dans la version française, c'est Edwige Feuillère que vous avez entendu jouer il y a quelques instants. Alors je me suis permis de demander à Edwige Feuillère quelles avaient été, en quelque sorte, ses impressions de voyeur.
Patrice Chéreau m'a demandé de doubler la marquise d'Urfé. J'ai dit avec joie, j'adore Patrice, j'adore travailler avec lui. Et puis on m'a envoyé 5 ou 6 pages de texte. Alors ça commençait par une soirée donnée chez elle, un souper chez la marquise. À ce souper assistait le comte de Saint-Germain, plus 2 ou 3 personnes, notamment une petite Edwige extrêmement savante et insupportable.
Une petite théologienne,
oui, tête à gifle, en fait, tête à claque, et la marquise d'Urfé. Et puis à partir d'un certain moment, il n'y avait plus que des « ah, oh, ah, ah », etc. Il y en avait 3 pages comme ça. Ce sont les gémissements de la marquise d'Urfé.
Comment pensez-vous que Casanova, le vrai, enfin l'historique, ou le Casanova de Fellini, ait pu exercer, disons, une telle fascination sur les femmes, telle séduction?
C'est très difficile parce qu'il y a quand même une grande distance de notre époque à la sienne. Mais en somme, si on veut bien, et là je ne citerai pas de nom, se référer à notre époque, il y a deux ou trois playboys dont on voit toujours les noms dans les soirées. On sait que ces messieurs ont beaucoup de succès auprès des femmes, mais ce n'est pas tellement leur physique, ni leur intelligence. Mais c'est le fait qu'ils sont toujours cités dans les carnets mondains. Et je pense que les mémoires de Casanova, c'est un peu le carnet mondain. Et que les dames de l'époque devaient se dire, comme, enfin, s'il y a encore des dames à notre époque, devaient se dire, tiens, une telle a été vue avec Casanova, vite, 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 mon nom dans la rubrique mondaine. Il va y avoir quelque chose comme ça, vous ne pensez pas? Donc nous avons encore des Casanova, qui sont presque aussi ridicules que l'autre.
Thank you.
C'est une opérina, comme dit Fellini, qu'on joue pendant un banquet, un autre banquet encore. Le maître de maison, opportunément déguisé, joue le rôle d'une mante religieuse qui dévore son mal, incarné par un de ses invités. Cette scène est d'ailleurs tournée dans le même style que les finales de Satie et Con. Là, il ne s'agissait pas d'amour cannibale, mais c'était le cadavre d'un poète qui était dévoré par ses admirateurs.
Et cet opéra-ballet est donné à Parme, dans un salon privé, par un aristocrate français, Dubois. Car à cette époque, le duché de Parme était partagé entre les Espagnols et les Français. Et Dubois, un bossu, un gentilhomme excentrique, organise pour ses amis des deux sexes des soirées de ballet bleu ou rose. C'est un acteur français, Daniel-Émile Forque, qui tient le rôle de Dubois.
Je mets un costume sublime. Ah, mais sublime. C'était un admirable costume, mais il était fait en métal. Bon. En plus, je portais une bosse. J'avais dit à Fellini, est-ce que vous voulez que j'ai assez de technique corporelle pour le faire? Il m'a dit, c'est pas bon. À l'écran, c'est pas bon, parce que si tu défais la bosse un tout petit peu, ça va se voir, il vaut mieux qu'elle soit dans le costume. Donc, il y avait une bosse, un corset, et puis des ailerons énormes. Je calcule que ça devait faire facilement 1 mètre chaque aileron, mais facile, un peu plus peut-être. Est très lourd. Et en plus, j'avais des bijoux qui pesaient des tonnes, qui étaient des imitations merveilleuses, mais lourds. Et le costumier, j'ai oublié son nom, qui est son costumier, comment il s'appelle ?
Donati,
avait décidé de teindre mes chaussures. Les chaussures qu'on teigne comme ça, en satin, ça rétrécit. J'ai mis les pieds dedans, c'était l'horreur. Je dis, je peux pas danser, je ne peux pas. Donc on a essayé de les élargir, mais pendant des heures, je supportais ça. En plus, le costume m'est coupé sous les aisselles, le cou, l'entrejambe, comme ça. Bon, et puis, on avait fait pour moi une espèce de tiare, comme ça, un diadème qui était les antennes de la mante religieuse. Bon. Généralement, des antennes, on les met droit. Mais Fellini voulait qu'il vienne bas dans mon front. Mais le poids de l'antenne faisait que j'avais la gueule triste. Alors Fellini dit, mais il a l'air triste. Je dis, mais Federico, je ne suis pas triste, mais cette chose pèse des kilos sur moi. On va te mettre un fil. Bon, alors on me met un fil en nylon comme ça. Mais au premier port des bras que je fais, au premier mouvement, et je faisais grand mouvement, tac, le fil se casse. Alors, on coupe, on remet le film. Et à tout ça, il fallait que je m'asseye de temps en temps parce que c'est épuisant. Et c'était l'histoire d'une mante religieuse qui mangeait son amant. Tout ça, on avait choisi un merveilleux Italien qui était mon partenaire. Et lui chantait et dansait. Mais lui était un danseur professionnel. Donc, faire un développé, un chassé, lui pouvait parfaitement. Et il était un peu agacé avec moi, qui, pour rien au monde, voulait faire toutes ces choses-là, parce que je les faisais mal. Fellini me voyait un peu renfrogné, comme ça. Et, très bien, alors, la musique faisait 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Caméra, tout près, tout ceci, tout cela, découpage, et j'entre en faisant 1, 2, 3, 4. Je vois le pianiste ivre de rage. Je lance un coup d'œil vers Fellini qui vient vers moi et me dit, ne te préoccupe pas, je veux que tu danses une libellule. Et c'est là où on voit comme Fellini sait être un très grand directeur d'acteurs. Il avait tout de suite compris que techniquement je ne pouvais pas faire ça et qu'il fallait se servir de moi pour le faire, mais dans l'esprit que lui voulait. Et il s'est passé une espèce d'osmose entre lui et moi. Il s'est mis à... Je comprenais d'avance ce qu'il voulait. En plus, quand on travaille avec lui, il faut savoir que Fellini est un des rares personnes honnêtes que j'ai rencontrées au monde. Je vais vous dire pourquoi. On était en train de tourner comme ça et me dit, j'aime beaucoup les acteurs. Et je les aime parce qu'ils me permettent de réaliser mon rêve. Il disait pas « je fais de l'art, je fais des déclarations, je vais changer le monde ». Non, il a dit clairement « je fais ça pour réaliser mes rêves ». Bon, à partir de là, tout est clair, tout est simple. Moi, la seconde après, je l'aimais. Je me suis dit « voilà un homme honnête qui est terrifiant, monstre corrompu, italien, qui sait mille choses de la vie, mais il est honnête ». C'est-à-dire qu'il ne prétend pas faire une théorie sociale, il ne prétend pas dire « je vais construire un monde ». Non, il dit « je suis quelqu'un qui cherche ses fantômes ». Et mes fantômes ne sont réalisés qu'à travers les acteurs. Bon. Chose qui fait que quand vous travaillez avec lui et il vous demande de mettre la main composée d'une certaine manière, il faut le faire. Parce que, en fin des comptes, on n'est que le reflet de son rêve. Vivre couvert d'ambassade dans les camps, et qu'il ne corde qu'il se mène de France au monde.
Et parmi les spectateurs de ce petit opéra-ballet, Casanova. Alors, comment est-il arrivé là?
Mais à la poursuite d'une femme, comme toujours. Celle-ci s'appelle Henriette. C'est une Française, incarnée par Tina Aumont. Casanova l'a rencontrée par hasard dans une auberge, déguisée bizarrement en officier hongrois. Il n'a pas réussi à percer le mystère de cette femme qui se peint indifféremment des vêtements masculins ou féminins. C'est d'ailleurs sa nature endogène qui attire irrésistiblement Casanova.
Et certainement Fellini aussi.
Ah, ça.
Donc, Casanova est attiré irrésistiblement par Henriette, cette femme si belle, si imprévisible, qu'elle se met à jouer du violoncelle. Oh, cette fois, Casanova est touché au cœur. Écoutez-le, il sanglote. Il est troublé. Et le sentiment insolite qu'il éprouve pour Henriette lui paraît aussi inextricable que le labyrinthe de verdure où il va s'égarer pour cacher son émotion. Le violoncelle l'a bouleversé. Il ne voudrait plus sortir de son envoûtement. Alors Casanova passe la nuit avec Henriette et pour la première fois de sa vie, il aborde un être avec délicatesse, qu'il soit homme ou femme, ou mieux, c'est le cas homme et femme. On ne voit pas Casanova faire l'amour avec Henriette, on le voit simplement caresser, effleurer le corps d'Henriette, tous deux réunis sous un voile blanc transparent.
Tout le temps, il est tombé en amour. Je ne peux pas dire ça en français, mais en anglais, c'est tombé en amour. Parce qu'il il a oublié ce qu'il était en amour avant. Chaque fois, c'est la première fois.
Et cette fois-ci, c'est peut-être la fois la plus importante. Mais Casanova va perdre Henriette, comme il a toujours perdu toutes ses femmes. Au petit matin, le réveil est sinistre. Au lieu de la femme rêvée, il voit près de son lit Dubois, le bossu, qui arrive tel un démon ricanant. Il est porteur d'un message. Henriette a demandé à Casanova de l'oublier, mais lui, hélas, ne pourra pas l'oublier, car il ne peut oublier aucune de ses femmes, puisqu'il les a inscrites dans sa mémoire, dans ses mémoires. Il est temps, maintenant, de se poser la question capitale des rapports de Casanova avec ses femmes. pourquoi les femmes ont-elles tellement compté pour Casanova ?